Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, selamat malam, comment allez-vous, apa kabar? Chers auditeurs, chers de la voix de l'Indonésie comme entière, voici l'émission en langue française de la voix de l'Indonésie de Jakarta. L'émission de jeudi 24 mars. Et nous avons déjà arrangé le programme pour vous amener vos activités ce soir à peu près une heure. Comme d'habitude, notre programme sera commencé avec les actualités du jour. Et puis, sera commencé avec trois magazines. Il y a le magazine de la culture ou magazine Pesona Indonesia, suivi avec magazine de warna-warni ou magazine La Couleur Indonésienne et magazine de musique comme La Dernière. Chers juristes auditeurs de la voix de l'Indonésie comme entière, n'oubliez pas, vous pouvez écouter notre émission sur l'Internet ou notre streaming. Voici notre link ou notre adresse www.voi.co.id. Je répète, www.voi.co.id. Ou bien vous pouvez écouter notre programme avec le encode sur la fréquence 9525 kHz. Et n'oubliez pas aussi, si vous intéressez notre programme, vous pouvez envoyer votre lettre sur nous, La Voix de l'Indonésie, boîte postale 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Ou bien si vous voulez envoyer avec l'email ou courrier électronique, vous pouvez cliquer notre site internet www.voi.co.id. Voilà notre chemin du jour. Maintenant, vous allez écouter la première, les actualités de La Voix de l'Indonésie.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Indonésie, Nouvelle-Zélande finalise le brouillon de l'accord d'entente. Le vice-président Yusuf Kalla a fait appel aux citoyens d'être prudents après les bombardements de Bruxelles. L'Indonésie encourage toutes les parties de maintenir la sécurité de la mer de Chine méridionale. Le vice-président indonésien a parlé de l'avenir de l'Asie au forum de Boao. L'Indonésie et la Chine fixent des objectifs à l'investissement de 30 milliards de dollars. Et enfin, le commerce entre le Pakistan et l'Indonésie montre des tendances positives. Voici le journal complet. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, a mené une réunion bilatérale avec le ministre de l'Immigration de la Nouvelle-Zélande, Michelle Woodhouse, en marge de la sixième réunion du processus de Bali, mardi à Nusa Dua, Bali. Au cours de la réunion, les deux ministres ont discuté de l'amélioration de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'investissement, l'éducation et la coopération technique. Les deux ministres ont également discuté l'intensification de la coopération pour résoudre les causes profondes du problème des immigrants dans la région et pour trouver une solution globale à long terme. À cet égard, la ministre des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, a déclaré qu'aujourd'hui, les deux pays s'efforçaient à résoudre un brouillon du mémorandum d'entente dans le domaine de la gestion des immigrants et le contrôle des frontières. En plus, le plan de la visite du premier ministre de la Nouvelle-Zélande à l'Indonésie pour renforcer la coopération entre l'Indonésie et la Nouvelle-Zélande.
And we try also to finalize the pending draft MOU on.
Nous essayons également de finaliser le brouillon du mémorandum d'entente dans les domaines des migrations et la gestion du contrôle des frontières. Nous espérons finaliser ce brouillon pour être signé par le Premier ministre de la Nouvelle-Zélande lors de visiter l'Indonésie. Dans la réunion bilatérale, le gouvernement indonésien a également exprimé ses attentes sur le soutien de la Nouvelle-Zélande pour faire succès la réunion du processus de Bali, ainsi que pour l'accord qui sera généré à la 6e réunion du processus de Bali. Le vice-président Yusuf Kalla a lancé un appel à tous les citoyens indonésiens en Europe et au Moyen-Orient d'être prudents après l'explosion qui a lieu à Bruxelles en Belgique le mardi 22 mars. Cela a été déclaré par le vice-président en marge de sa visite de travail à la ville de Sanya, Hainan, en Chine, mercredi. Le vice-président a également demandé à tous les citoyens à l'étranger de rapporter immédiatement au bureau de représentation indonésienne par l'ambassade ou le consulat général local s'ils trouvent des symptômes suspects aux alentours. Les citoyens indonésiens doivent augmenter leur vigilance en raison de la terreur qui pourrait arriver partout. L'autorité de l'aéroport de Zaventem, le lieu de l'explosion, le mardi 22 mars à environ 8 heures heure locale, a établi un centre de crise et a confirmé que l'action est la bombe suicide. Il y a les citoyens indonésiens qui sont les victimes de l'attentat de Bruxelles. Le vice-président Yusuf Kalla demande à toutes les parties de maintenir la paix et la sécurité dans la mer de Chine méridionale pour que le conflit ne se propage pas en conflit ouvert. Cela a été déclaré par Yusuf Kalla dans son discours prononcé à la conférence du Forum de Boao pour l'Asie à Hainan en Chine jeudi. Cité par Antara, Yusuf Kalla a souligné que l'Indonésie n'était pas en paix qui est en litige dans ce cas. Mais l'Indonésie, consciente du risque réel où les conflits territoriaux peuvent se transformer en conflits ouverts qui perturbera la région. Le gouvernement indonésien estime le respect mutuel est la clé pour maintenir la paix et la sécurité de la mer de Chine méridionale. Le vice-président Yusuf Kalla a parlé de l'avenir de l'Asie et de l'amélioration de la coopération économique entre les pays dans la région au Forum de Boao pour l'Asie, tenu à Boao, la province de Hainan, en Chine, ce jeudi. Le vice-président indonésien a affirmé que l'Indonésie avait une opportunité de marché promoteur pour les pays industrialisés tels que la Chine, le Japon et la Corée. Selon Yusuf Kalla, ce qui est nécessité par l'Indonésie actuellement est le règlement efficace pour rendre facile les investissements étrangers en Indonésie. L'Indonésie est le deuxième plus grand marché pour la Chine après les États-Unis à investir. Le gouvernement de l'Indonésie et la Chine ciblent les engagements d'investissement de la Chine en Indonésie en 2016 d'un montant de 30 milliards de dollars américains. C'est ce qu'a affirmé le chef du conseil de coordination des investissements, Franky Sibarani, lorsqu'il a accompagné le vice-président Yusuf Kalla en ville Sanyang, province de Hainan en Chine, le mercredi, pour rencontrer un certain nombre d'investisseurs de la Chine. Franky a expliqué, pour encourager la réalisation de l'investissement chinois, le gouvernement indonésien a le projet d'ouvrir le bureau de représentants du conseil de coordination de l'investissement en Chine, pour rendre plus facile les investisseurs chinois pour obtenir des informations sur le processus d'investissement en Indonésie. La réalisation totale de l'investissement étranger, sauf le secteur pétrolier et gazier en amont, ainsi que les finances de la Chine à l'Indonésie, au cours de 2010 à 2015, ont atteint 2,1 milliards de dollars américains. Selon les données du Bureau de coordination des investissements, la Chine a placé le 11e rang des pays étrangers qui réalisent les investissements à l'Indonésie. Les relations entre le Pakistan et l'Indonésie, notamment dans le domaine du commerce, montrent une tendance positive avec des volumes plus de 2 milliards de dollars américains. Il a été déclaré par l'ambassadeur du Pakistan à l'Indonésie, Muhammad Akil Nadem, cité par Antara dans le cadre de la Journée nationale de la République islamique du Pakistan, mercredi le 23 mars 2016 à Jakarta. Le Pakistan et l'Indonésie ont signé un accord commercial préférentiel qui assure un meilleur accès au marché pour les produits des deux pays depuis février 2012. Cet accord vise à accroître les échanges entre les deux pays avec la majorité des musulmans. Les deux parties sont d'accord pour réduire les droits d'importation pour les deux produits principaux, à savoir l'huile de palme rouge et l'orange quinoa. L'ambassadeur Nadim espère que ces transactions commerciales peuvent continuer à augmenter. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Cinquième longtemps après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire et pour le titre « Reconstruire le méga-projet Hambalang ». Pour construire la gloire du sport et ramener la bonne réputation de la nation, l'Indonésie, à l'époque du gouvernement du président Susilo Bambang Yudhoyono, a lancé l'unité de mise en œuvre du programme d'or indonésien au Satlak Prima. L'objectif, entre autres, est de gagner une médaille aux Jeux olympiques du Brésil en 2016 et la plus grande cinquième position aux Jeux asiatiques 2018. Afin de réaliser ces idées, un centre de l'éducation, de la formation et une école de sport à l'échelle nationale, connue sous le nom le projet Hambalang, sont construits. Cependant, avant le mandat du gouvernement de Susilo Bambang Yudhoyono et pris fin, le méga projet a été stoppé en 2011 en raison de l'existence du scandale dans sa construction. Jusqu'à présent, ce cas est encore dans la manipulation juridique. Il y a quelques jours, le président Joko Widodo a visité le projet Hambalang qui est abandonné à cause du scandale. Après la visite et d'obtenir des commentaires du ministre de la Jeunesse et des Sports avec les raisons de l'intérêt national, le président Joko Widodo prévoit de revivre et de continuer de nouveau le méga projet Hambalang. Selon le président, le complexe Hambalang est un atout de l'État et a dû être sauvé. Bien que plus tard dans l'avenir, ce complexe ne doive pas être un centre sportif national, mais le moins, ce complexe de plus de 15 hectares peut être utile pour beaucoup de gens. S'il ne peut pas être utilisé pour l'intérêt du sport, le président a le projet de modifier l'utilité de Hambalang pour devenir les logements de location ou au bureau afin que le projet d'une valeur de plus de 2 trillions rupiah ne soit pas gaspillé. Pendant ce temps, l'intérêt du ministre de la Jeunesse et des Sports, Imam Nahrawi, de continuer le projet Hambalang doit être apprécié, surtout lié aux Jeux asiatiques 2018 à Jakarta et à Palembang. L'Indonésie nécessite l'infrastructure complémentaire dans le domaine du sport. On estime que plus de 10 000 athlètes de différents pays asiatiques seront présents à ce grand événement sportif du continent asiatique. Alors que le complexe sportif Gelora Bung Karno à Jakarta, avec l'infrastructure sportive qui existe d'aujourd'hui, ne sont pas en mesure de soutenir cette activité. Le plan de relancer le projet Hambalang doit aussi être abordé avec beaucoup de prudence parce que le scandale de Hambalang n'a pas encore arrêté et est toujours dans le domaine juridique. Il est donc naturel que la Commission pour l'éradication de la corruption, KPK, rappelle au gouvernement d'être prudent et d'attendre jusqu'à ce que le processus juridique vraiment complète. La même chose exprimée également par la Commission 10 du Parlement qui permet d'arrêter les méga projets sportifs. Cependant, quel que soit le processus juridique inachevé, il est normal que si le gouvernement actuel veut sauver les actifs d'État abandonnés. Pourtant, ce projet a absorbé un grand nombre de fonds du peuple. Serge Hutter, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Cher ami, bonsoir. Nous continuons notre émission avec une rubrique quotidienne, l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons avec le 24 mars comme la Journée mondiale de la tuberculose. Le 24 mars 1882, à Berlin, en Allemagne, Robert Koch, un microbiologiste, a présenté le résultat d'une étude sur les causes de la tuberculose. Il a constaté que la tuberculose est une maladie infectieuse causée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis. Cette maladie affecte le plus souvent les poumons, bien que dans un tiers de cas, cette maladie attaque d'autres organes et se transmet personne à personne. Elle est aussi l'une des maladies les plus anciennes connues pour attaquer les humains. Grâce à l'invention de Robert Koch, la tuberculose peut être guérie. Donc, le 24 mars est célébré comme la Journée mondiale de la tuberculose. Nous tournons au 24 mars 1946. L'incident de Bandung Mer de Feu, un grand incendie qui a eu lieu dans la ville Bandung, Java West. Dans cette heure, plusieurs 200 000 résidents de Bandung ont brûlé leurs maisons, laissant la ville pour les montagnes au sud de Bandung, afin d'empêcher les forces alliées et les troupes Nika Pays-Bas d'utiliser la ville de Bandung comme quartier général militaire stratégique dans la guerre d'indépendance d'Indonésie. La décision de brûler Bandung était prise par le consensus de l'Union de la lutte Priangan en présence de toute la force de la lutte pour le pouvoir de la République d'Indonésie. Le colonel Abdul Haris Nasution, en tant que commandant de division 3 de l'armée populaire de l'Indonésie, annonce le résultat de la délibération et a ordonné l'évacuation de la ville Bandung. Au même jour, un grand groupe de résidents de Bandung ont quitté la ville Bandung et la soirée, l'incendie de la ville a eu lieu. Cet événement historique est connu comme Bandung Lautan Api, soit Bandung Mer de Feu. Nous terminons avec le 24 mars 1989. Le pétrolier Exxon Valdez a déversé plus de 11 millions de gallons de pétrole dans le Prince William Sound en Alaska. Dongfang Ocean, anciennement appelé Exxon Valdez, était un pétrolier d'ExxonMobil qui a échoué et déversé du pétrole brut autour de 257 000 à 750 000 barils dans les eaux du Prince William, Black Reef, Alaska, le 24 mars 1989. Le navire dirigé par capitaine Joseph Hazelwood s'est dirigé pour Long Beach, Californie. L'événement est la deuxième plus lourde pollution de mer par le pétrole dans l'histoire des États-Unis et se classe au 54e au monde. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « De grandes opportunités de services de livraison pour plus développer dans la communauté économique de l'ASEAN ». La communauté économique de l'ASEAN ou CEA est déjà appliquée. L'Indonésie devrait faire face à la CEA, notamment le secteur industriel. Il doit améliorer la capacité, la qualité et le professionnel. Un terme d'opportunité est basé sur la condition géographique de l'Indonésie. Cela est très favorable à la pose et de la logistique.
C'est ce qui a été dit par le président de l'Association des services de livraison express postaux et de logistique d'Indonésie, ou Asperindo, M. Mohamad Kadrial, à Jakarta, cité par inilah.com. Selon lui, le taux de la croissance du secteur industriel peut atteindre plus de 14% en 2016. Il sera plus rapidement atteint si les régulateurs et les entreprises améliorent le système de la logistique, en particulier dans la régulation de l'infrastructure et la technologie. Asperindo est prêt à faire face à la communauté économique de l'ASEAN et optimiste d'être capable de créer l'innovation et encourager la collaboration stratégique avec les membres et les parties prenantes. Pour préparer l'économie en Asie du Sud-Est, toutes les parties doivent être en mesure de faire une synergie positive et transformer les défis en opportunités. Selon Kadrial, il peut être atteint si le régulateur ou gouvernement et les hommes d'affaires peuvent améliorer le système de l'industrie logistique, notamment la réglementation, l'infrastructure et la technologie. On estime la poste et la logistique connaîtra une croissance plus de 14%. Cette mesure est en ligne avec le développement du commerce électronique et les PME. Cependant, les agriculteurs indonésiens doivent également avoir la compétitivité en améliorant la qualité pour faire face à la communauté économique de l'ASEAN. Selon l'autre fonctionnaire du ministère de l'Agriculture, M. Harry Sulistianto, cité par okizon.com, il y a la possibilité que les travailleurs étrangers aient travaillera dans le secteur de l'agriculture en Indonésie. L'industrie des cosmétiques doit être soutenue en continuant à préparer des ressources humaines. L'industrie des cosmétiques maintenant peut rivaliser sur le marché intérieur et à l'intention d'explorer le marché de l'ASEAN. On souhaite que l'Indonésie puisse promouvoir les produits nationaux. Selon Nur Hayati, l'industrie cosmétique en Indonésie a été capable de rivaliser avec le cosmétique étranger. Par conséquent, l'industrie des cosmétiques en Indonésie sera capable de dominer le marché dans la communauté économique de l'ASEAN. Chers amis, c'était la mise au point de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Chers juristes auditeurs de la Voix de l'Indonésie, vous avez écouté tout à l'heure les informations de la Voix de l'Indonésie qui se composent avec les actualités du jour, le commentaire, le focus et l'histoire du jour.
La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, a mené une réunion bilatérale avec le ministre de l'Immigration de la Nouvelle-Zélande, Michelle Woodhouse, en marge de la sixième réunion du processus de Bali, mardi à Nusa Dua, Bali. Au cours de la réunion, les deux ministres ont discuté de l'amélioration de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'investissement, l'éducation et la coopération technique. Les deux ministres ont également discuté l'intensification de la coopération pour résoudre les causes profondes du problème des immigrants dans la région et pour trouver une solution globale à long terme. À cet égard, la ministre des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, a déclaré qu'aujourd'hui, les deux pays s'efforcent à résoudre un brouillon du mémorandum d'entente dans le domaine de la gestion des immigrants et le contrôle des frontières. En plus, le plan de la visite du premier ministre de la Nouvelle-Zélande à l'Indonésie pour renforcer la coopération entre l'Indonésie et la Nouvelle-Zélande.
And we try also to finalize the pending draft MOU on.
Nous essayons également de finaliser le brouillon du mémorandum d'entente dans les domaines des migrations et la gestion du contrôle des frontières. Nous espérons finaliser ce brouillon pour être signé par le premier ministre de la Nouvelle-Zélande lors de visiter l'Indonésie. Dans la réunion bilatérale, le gouvernement indonésien a également exprimé ses attentes sur le soutien de la Nouvelle-Zélande pour faire succès la réunion du processus de Bali ainsi que pour l'accord qui sera généré à la sixième réunion du processus de Bali. Le vice-président Yusuf Kalla a lancé un appel à tous les citoyens indonésiens en Europe et au Moyen-Orient d'être prudents après l'explosion qui a lieu à Bruxelles en Belgique le mardi 22 mars. Cela a été déclaré par le vice-président en marge de sa visite de travail à la ville de Sanya, Hainan, en Chine, mercredi. Le vice-président a également demandé à tous les citoyens à l'étranger de rapporter immédiatement au bureau de représentation indonésienne par l'ambassade ou le consulat général local s'ils trouvent des symptômes suspects aux alentours. Les citoyens indonésiens doivent augmenter leur vigilance en raison de la terreur qui pourrait arriver partout. L'autorité de l'aéroport de Zaventem, le lieu de l'explosion, le mardi 22 mars à environ 8 heures heure locale, a établi un centre de crise et a confirmé que l'action est la bombe suicide. Il y a les citoyens indonésiens qui sont les victimes de l'attentat de Buxel. Le vice-président Yusuf Kalla demande à toutes les parties de maintenir la paix et la sécurité dans la mer de Chine méridionale pour que le conflit ne se propage pas en conflit ouvert. Cela a été déclaré par Yusuf Kalla dans son discours prononcé à la conférence du Forum de Boao pour l'Asie à Hainan en Chine jeudi. Cité par Antara, Yusuf Kalla a souligné que l'Indonésie n'était pas en paix qui est en litige dans ce cas. Mais l'Indonésie, consciente du risque réel où les conflits territoriaux peuvent se transformer en conflits ouverts qui perturbera la région. Le gouvernement indonésien estime le respect mutuel est la clé pour maintenir la paix et la sécurité de la mer de Chine méridionale. Le vice-président Yusuf Kalla a parlé de l'avenir de l'Asie et de l'amélioration de la coopération économique entre les pays dans la région au Forum de Boao pour l'Asie, tenu à Boao, la province de Hainan, en Chine, ce jeudi. Le vice-président indonésien a affirmé que l'Indonésie avait une opportunité de marché promoteur pour les pays industrialisés tels que la Chine, le Japon et la Corée. Selon Yusuf Kalla, ce qui est nécessité par l'Indonésie actuellement est le règlement efficace pour rendre facile les investissements étrangers en Indonésie. L'Indonésie est le deuxième plus grand marché pour la Chine après les États-Unis à investir. Le gouvernement de l'Indonésie et la Chine ciblent les engagements d'investissement de la Chine en Indonésie en 2016 d'un montant de 30 milliards de dollars américains. C'est ce qu'a affirmé le chef du conseil de coordination des investissements, Franky Sibarani, lorsqu'il a accompagné le vice-président Yusuf Kalla en ville Sanyang, province de Hainan en Chine, le mercredi, pour rencontrer un certain nombre d'investisseurs de la Chine. Franky a expliqué, pour encourager la réalisation de l'investissement chinois, le gouvernement indonésien a le projet d'ouvrir le bureau de représentants du conseil de coordination de l'investissement en Chine, pour rendre plus facile les investisseurs chinois pour obtenir des informations sur le processus d'investissement en Indonésie. La réalisation totale de l'investissement étranger, sauf le secteur pétrolier et gazier en amont, ainsi que les finances de la Chine à l'Indonésie, au cours de 2010 à 2015, ont atteint 2,1 milliards de dollars américains. Selon les données du Bureau de coordination des investissements, la Chine a placé le 11e rang des pays étrangers qui réalisent les investissements à l'Indonésie. Les relations entre le Pakistan et l'Indonésie, notamment dans le domaine du commerce, montrent une tendance positive avec des volumes plus de 2 milliards de dollars américains. Il a été déclaré par l'ambassadeur du Pakistan à l'Indonésie, Muhammad Akil Nadem, cité par Antara dans le cadre de la Journée nationale de la République islamique du Pakistan, mercredi le 23 mars 2016 à Jakarta. Le Pakistan et l'Indonésie ont signé un accord commercial préférentiel qui assure un meilleur accès au marché pour les produits des deux pays depuis février 2012. Cet accord vise à accroître les échanges entre les deux pays avec la majorité des musulmans. Les deux parties sont d'accord pour réduire les droits d'importation pour les deux produits principaux, à savoir l'huile de palme rouge et l'orange kino. L'ambassadeur Nadim espère que ces transactions commerciales peuvent continuer à augmenter. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.iv.
Et maintenant, c'est le tour de notre rubrique suivante. C'est le programme de magazine de Pesona Indonesia ou magazine de la culture.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel intitulé La zone touristique de Lombongo. Gorontalo est une province sur l'île de Sulawesi. La province se compose en grande partie de la zone montagneuse qui s'étend de nord au sud. Ayant une zone volcanique, il n'est pas étonnant que Gorontalo ait des sources chaudes naturelles. L'une des sources chaudes naturelles à Gorontalo est très célèbre, nommée Source d'eau chaude Lombongo. Elle est très intéressante parce que vous pouvez profiter de la fraîcheur de l'eau chaude et froide de la nature dans un seul endroit. Ce site touristique est situé dans le village de Duwono, la région de Gorontalo, et peut être accessible en utilisant le transport terrestre pendant environ 30 minutes. La zone touristique de Lombongo d'environ 32 hectares a été inaugurée en 1989. Elle se compose de deux piscines, une piscine chauffée et une piscine d'eau froide. À côté de la piscine, il y a la rivière qui draine les eaux de la montagne qui sont claires et fraîches. La superficie d'une piscine chauffée est d'environ 500 mètres carrés avec une profondeur d'environ 1 jusqu'à 2 mètres. L'eau chaude qui sort de la ressource en eau entre les rochers peut être utilisée pour cuire un œuf à maturité. La source d'eau chaude dans la piscine est riche en minéraux car elle contient du soufre qui est très bon pour la santé de la peau. Voyager à Lombongo, bien sûr, l'activité principale est nager en profitant de la beauté naturelle Lombongo. Située au pied du mont Tilong Kabila, Lombongo possède la diversité biologique, entre autres les animaux sauvages, les différents types d'oiseaux, le papillon, l'insecte, l'amphibien, le serpent et aussi le tarsier. La végétation autour des sites touristiques est encore bonne, mais si vous voulez profiter de la sensation de la forêt tropicale, vous pouvez entrer dans la zone du parc national Bogani Nani Wartabone. La zone touristique de Lombongo est directement adjacente à ce parc. Si vous voulez explorer le parc national, il y a des gens qui sont prêts à être un guide. Et pour ceux d'entre vous qui aiment l'activité du tourisme nautique, vous trouverez deux cascades qui se trouvent éloignées. Pour profiter de la beauté et la fraîcheur de l'eau dans la zone touristique Lombongo, vous ne payez que 2000 rupiah. Cette zone touristique est équipée de diverses installations comme les toilettes, les chalets, parkings, stands de nourriture et bureaux d'information. De certains jours, vous pouvez regarder la présentation des arts traditionnels. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta, intitulé La zone touristique Lombongo. Merci à tous et à bientôt.
Cher juridique auditeur de la voix de l'Indonésie en entière, vous avez écouté tout à l'heure Magazine de la culture et nous espérons que vous êtes content à écouter notre programme et vous pouvez ajouter votre connaissance sur l'Indonésie. Maintenant, c'est le tour de notre rubrique suivante, c'est le magazine Couleur indonésienne ou Warna-Warni.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel intitulé La zone touristique de Lombongo. Gorontalo est une province sur l'île de Sulawesi. La province compose en grande partie de la zone montagneuse qui s'étend de nord au sud. Ayant une zone volcanique, il n'est pas étonnant que Gorontalo ait des sources chaudes naturelles. L'une des sources chaudes naturelles à Gorontalo est très célèbre, nommée Source d'eau chaude Lombongo. Elle est très intéressante parce que vous pouvez profiter de la fraîcheur de l'eau chaude et froide de la nature dans un seul endroit. Ce site touristique est situé dans le village de Duono. La région de Gorontalo et peut être accessible en utilisant le transport terrestre pendant environ 30 minutes. La zone touristique de Lombongo d'environ 32 hectares a été inaugurée en 1989. Elle se compose de deux piscines, une piscine chauffée et une piscine d'eau froide. À côté de la piscine, il y a la rivière qui draine les eaux de la montagne qui sont claires et fraîches. La superficie d'une piscine chauffée est d'environ 500 mètres carrés avec une profondeur d'environ 1 jusqu'à 2 mètres. L'eau chaude qui sort de la ressource en eau entre les rochers peut être utilisée pour cuire un œuf à maturité. La source d'eau chaude dans la piscine est riche en minéraux car elle contient du soufre qui est très bon pour la santé de la peau. Voyager à Lombongo, bien sûr, l'activité principale est nager en profitant de la beauté naturelle Lombongo. Située au pied du mont Tilong Kabila, Lombongo possède la diversité biologique. Entre autres, les animaux sauvages, les différents types d'oiseaux, le papillon, l'insecte, l'amphibien, le serpent et aussi le tarsier. La végétation autour des sites touristiques est encore bonne, mais si vous voulez profiter de la sensation de la forêt tropicale, vous pouvez entrer dans la zone du parc national Bogani Nani Wartabone. La zone touristique de Lombongo est directement adjacente à ce parc. Si vous voulez explorer le parc national, il y a des gens qui sont prêts à être un guide. Et pour ceux d'entre vous qui aiment l'activité du tourisme nautique, vous trouverez deux cascades qui se trouvent éloignées. Pour profiter de la beauté et la fraîcheur de l'eau dans la zone touristique Lombongo, vous ne payez que 2000 rupiah. Cette zone touristique est équipée de diverses installations comme les toilettes, les chalets, parkings, stands de nourriture et bureaux d'information. De certains jours, vous pouvez regarder la présentation des arts traditionnels. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta, intitulé La zone touristique Lombongo. Merci à tous et à bientôt.
Nous
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Chers auditeurs et auditeurs de la voix de l'Indonésie en entier, maintenant c'est le troisième programme de notre magazine. C'est magazine de musique ou Pelangi Nada.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la voix d'Indonésie dans le monde entier. Voici le magazine musical. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des musiques indonésiennes. Vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition d'aujourd'hui, nous allons vous présenter Sandro Tobing. Pour ouvrir notre rencontre, voici la chanson de Sandro Tobing intitulée « Nuance d'amour ». Bonne écoute.
Sinar hanya ada
Sagittaire, c'était la chanson de Sandro Tobin intitulée Nuances d'amour. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.co.id et nous vous invitons également à rejoindre La Voix d'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. Sandro Tobin, né le 17 mars 1963, est un chanteur solo de pop de l'Indonésie. Sandro avait gagné le premier champion du concours de chant, la vedette de la radio et de la télévision aux années 1980. De ce concours de chant, Sandro a commencé sa carrière dans l'industrie musicale de l'Indonésie. Certains producteurs s'étaient intéressés à un bel homme de Medan à enregistrer leur chanson. Bon, Sergiteur, avant que nous en savions plus sur ce chanteur, écoutons maintenant sa chanson intitulée « Accueillir l'amour ». Bonne écoute.
Melanda getarkan asmara.
Chers amis de l'antenne, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec un chanteur, Sandro Tobing. La présence de Sandro Tobing dans l'industrie de la musique pop de l'Indonésie aux années 80 a donné sa propre couleur. Grâce à sa maturité vocale, Sandro a gagné avec succès le goût des amateurs de la musique pop indonésienne. Après qu'il soit succès dans l'industrie musicale indonésienne, Sandro a commencé à s'intéresser au monde de films. Il a joué certains cinémas électroniques. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons intitulées « Notre amour rouge et noir » et « Attendre l'amour ». Bonne écoute et au revoir.
Seputih melati bunga kasihku ini di dalam diri engkau tumbuh dan bersemi. Ku rasa hasrat lirik menyapa di selara gaya tak berdaya. Mungkinkah nurani cinta ini meraja, asmara telah tiba dan ini kita berdua. Ada atau juga tiada, merah hitam cinta milik kita. Sejak ini semakin kemarau dan merah hitam cinta kita berdua. Berdaya, mungkinkah nurani cinta kini meraja, asmara telah tiba dan milik kita berdua. Ada atau juga tiada.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Inikah awal bencana?
Ser juridis auditeur de la Voix de l'Indonésie, malheureusement, le temps ne permet plus de continuer notre programme. Vos équipes de ce soir, Mouamoua Suartono, Kartika Maisaro et notre technicien, vous disons bonsoir, rendez-vous demain, même heure, même fréquence. A bientôt, au revoir, sampai jumpa.
Radio République Indonésia, Service international, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.